Ce matin, je vais vous lire un texte que vous connaissez bien. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, vous voyez de quoi je veux parler. Voilà ce que dit, ce qu'écrit Paul. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Qui n'admirait pas la profondeur de la pensée de Paul dans ces lignes bien connues des chrétiens? Elles sont tellement célèbres qu'on les retrouve gravées dans le marbre sur un monument érigé devant l'église moderne de Corinthe, juste à côté du site archéologique. En effet, ce passage de l'Épître aux Corinthiens est écrit en grec, en français, en anglais et dans une autre langue que je n'ai pas reconnue. Si l'on considère ce texte comme un enseignement que Dieu nous donne de la part, que Paul nous donne de la part de Dieu, un enseignement à mettre en pratique dans notre vie de chrétien, l'admiration dont je parlais au début a tendance à faire place au découragement, tellement la barre est placée haut. Il nous semble en effet que si nous étions capables de parler la langue des anges, de prophétiser, si nous avions toute la connaissance et la foi grande jusqu'à transporter les montagnes, si nous donnions tout ce que nous possédons pour nourrir les pauvres, si nous offrions nos corps en sacrifice, nous ne serions pas loin d'être parfaits aux yeux de Dieu. Et il ne nous manquerait rien. Eh bien, pas du tout. Même si j'avais tout cela, nous dit l'apôtre, qui se met au même niveau que tous les hommes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Après avoir parlé des dons de l'Esprit au chapitre précédent, dons auxquels il accorde une grande importance, et avant de donner un enseignement au chapitre suivant sur la façon dont les dons doivent s'exercer, Paul insère donc le texte de ce matin. Les trois premiers versets sont une sorte de mise au point qu'on pourrait résumer ainsi. Ne confondez pas action et amour. Il ajoute après cela un hymne à l'amour que je vous ai lu. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, l'amour. Remarquons que Paul place toujours l'amour en première place. Pour preuve, ce qu'il écrit au verset 13, que je vous ai lu aussi, « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. » On retrouve cette première place accordée à l'amour dans la liste du fruit de l'esprit, en Galates 5, 22. En effet, là aussi, l'amour est en tête des fruits que produit l'esprit, avant la joie, avant la paix, et avant les six autres fruits. Je veux souligner, car c'est important, que Paul n'associe pas automatiquement acte charitable et amour. Ce que nous avons tendance, nous, à faire. En d'autres termes, nous pouvons très bien accomplir de très beaux actes charitables, sans pour cela aimer ceux auxquels il s'adresse. Comme illustration de cette vérité qui nous concerne tous, je voudrais vous lire un texte tiré d'un roman d'Irène Némirovski qui s'intitule « Suite française ». L'histoire se passe en 1941, en France, pendant l'occupation allemande. Une vicomtesse, catholique convaincue et assidue à la messe, qui vivait dans un petit village, avait entrepris d'envoyer des colis de vivres aux soldats de ce village prisonniers en Allemagne. En tant que présidente de l'œuvre, elle chercha à convaincre les paysannes de donner de la nourriture non seulement pour leur mari ou leur fils, mais aussi pour les autres prisonniers qui souffraient de la faim dans les camps. À force d'arguments, elle a fini par récolter une bonne quantité de vivres et à les envoyer aux prisonniers du village. N'est-ce pas une belle œuvre de venir en aide à ceux qui ont faim? Une œuvre qui semble mettre en pratique l'exhortation de Jean dans sa première épître, chapitre 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Ne répondons pas trop vite avant de connaître la suite. Voici ce qu'écrit l'auteur. En prenant congé, les paysannes tendaient à la vicomtesse une main rouge crevassée par le froid, par les soins donnés aux bêtes, par la lessive, et chaque fois, la vicomtesse devait faire un petit effort pour serrer cette main dont le contact lui était physiquement désagréable. Mais elle dominait ce sentiment contraire à la charité chrétienne, et par esprit de mortification, elle se forçait à embrasser les enfants qui accompagnaient leur mère. Ils étaient tous gras et roses, gavés et barbouillés comme des petits porcs. Enfin, la salle fut vide, les fermières étaient parties, la vicomtesse soupira. Non de fatigue, mais d'écœurement. Que l'humanité était laide et basse. Quel mal il fallait se donner pour faire palpiter une lueur d'amour dans ces tristes âmes. Pouah ! Se dit-elle tout haut. Mais comme le lui recommandait son directeur de conscience, elle offrit à Dieu les fatigues et les travaux de cette journée. Certes, frères et sœurs, cette image est tirée d'un roman, une œuvre fictive. Mais si nous sommes sincères avec nous-mêmes, elle pourrait être sans doute tirée de certains épisodes de nos vies, non? Ce qui m'a frappé lorsque j'ai relu l'exhortation de Jean, c'est qu'il ne dit pas seulement « n'aimons pas en parole, mais en action ». Spontanément, nous aurions tendance à comprendre que l'action est synonyme d'amour. C'est un peu comme cela que nous le vivons souvent. Mais c'est parce que nous n'avons pas bien lu. En effet, Jean ajoute une nuance importante qui change tout. N'aimons pas en parole, dit-il, mais en action et en vérité. Dans l'histoire que je vous ai lue, nous voyons bien que la vérité était absente. Or, lorsque la vérité est absente, la valeur des actes est corrompue, parce que l'amour aussi est absent. Cela peut être la répulsion qui corrompt les actes, comme dans l'histoire que je vous ai lue, mais cela peut être aussi l'intérêt, le calcul, l'orgueil, la vanité, l'hypocrisie, le désir de se mettre en valeur, la condescendance, et tant d'autres sentiments dont notre nature humaine est malheureusement capable. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On se sent petit devant une telle affirmation, n'est-ce pas? Et pourtant, elle n'a pas pour but de nous écraser ou de nous culpabiliser. Elle nous est donnée pour que nous prenions conscience de notre orgueil qui a toujours tendance à relever la tête. Elle nous est donnée pour que nous cherchions toujours à nous laisser conduire par Christ sur le chemin de la vérité et de l'amour, qui sont en réalité le même chemin. Car il n'y a pas de vérité sans amour, ni d'amour sans vérité. Ce que Paul écrit et le commentaire que Jean fait nous permettent aussi de comprendre un texte qui nous dérange à première lecture. Je veux parler de Matthieu 7, 21-23, où Jésus dit à ses disciples, donc à nous aussi, « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Mais Seigneur, Seigneur, mais n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et on retrouve cette même parole terrible adressée aux vierges dans Matthieu 25, 12. Dans ce passage de Matthieu 7, Jésus parle de faire la volonté de son Père. Comment cela se passe, dit-il, faire la volonté de Dieu selon le texte de Jean et le texte de Paul? Cela se traduit-il seulement par des actes? Non. Un croyant qui fait la volonté de son Père céleste, c'est d'abord celui qui aime. C'est comme si Dieu voulait nous faire comprendre que l'amour, c'est le commencement et la fin de tout. En effet, nous le savons, les actes n'entraînent pas automatiquement l'amour. Par contre, l'amour entraîne automatiquement des actes que Dieu agrée. Soyons donc modestes lorsque nous disons que nous aimons. Vérifions d'abord que ce soi-disant amour a bien été suivi d'actes. De même qu'on n'accomplit pas des œuvres pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, De même, c'est l'amour qui nous poussera tout naturellement à faire des œuvres qui plairont à Dieu et qui porteront du fruit. Dans son épître, Jacques affirme que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Les textes que nous avons cités nous permettent d'affirmer que les actes accomplis sans amour ont peut-être de la valeur aux yeux des hommes, mais beaucoup moins aux yeux de Dieu. Bien sûr, on peut se contenter de plaire aux hommes, mais ce n'est pas le but de ceux qui se disent chrétiens. Alors comment allons-nous faire, nous qui sommes si pauvres en amour? La réponse est très simple, même si la mise en pratique l'est moins. Il faut apprendre. Si l'on voulait résumer simplement ce qu'est la vie chrétienne, on pourrait dire que c'est une formation permanente pour apprendre à aimer. On n'aura jamais assez de toute une vie pour savoir aimer. Ne nous leurrons pas. Nous ne saurons jamais vraiment aimer sur cette terre. Nous serons toujours d'éternels apprentis qui veulent apprendre à aimer pour ressembler à celui qui aime véritablement, le Christ. Comme je l'ai dit plus haut, le texte de Paul n'a pas pour but de nous culpabiliser sur notre incapacité à aimer comme nous devrions. Il ne nous condamne pas non plus. Il nous indique la voie à suivre pour honorer Dieu et ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que nous prenions notre parti de ne pas savoir aimer, que nous nous contentions de la pauvreté de notre amour, non. De même que notre foi et notre sanctification sont destinées à grandir, de même, notre amour est destiné à grandir parce que c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Et cette croissance, elle prend sa source en Christ. En Christ seul et dans la relation que nous avons avec lui. De même que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, nous sommes incapables d'aimer comme Christ nous demande de le faire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Mais de même que Dieu nous sauve par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, Éphésiens 1, 8, Dieu veut nous apprendre à aimer. C'est dans notre relation, dans notre abandon à Christ, que se fera cet apprentissage qui, soyons-en bien conscients, durera toute notre vie. Une des conditions essentielles pour progresser en amour, c'est d'adopter l'attitude humble du péager de la parabole. Vous vous souvenez, en Luc 18, 9, 14. Vous vous en souvenez? C'est-à-dire, comme le péager, de reconnaître devant Dieu que nous ne savons pas aimer et lui demander jour après jour, Seigneur, Seigneur, apprends-moi à aimer. Oui, Seigneur, nous voulons en faire une prière quotidienne. Apprends-nous à aimer. Nous nous sentons tellement petits, Seigneur. Mais tu es un grand Dieu. ce que tu as déjà transformé en nous par ta merveilleuse présence, tu peux le faire aussi pour l'amour. Alors exauce notre prière, Seigneur.